sur un plateau. Dominique André. Sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans le studio du Monde sur un plateau jusqu'à la mi-juillet. On est avec vous pour parler de la Chine tous les jours avec nos invités. Comme beaucoup de pays, la Chine connaît une effervescence spirituelle et religieuse. Après des années de maoïsme athée, de destruction des temples et de persécution des moines par les gardes rouges, notamment pendant la révolution culturelle de 66 à 76, le régime chinois est devenu plus tolérant avec certaines religions. Les temples ressuscitent et le monastère des moines de Shaolin sur le mont Song dans la province du Henan attire chaque année des milliers de visiteurs chinois et occidentaux qui veulent donner un sens à leur vie ailleurs que dans l'art, le sport ou l'identité nationale. La Chine, état laïque, reconnaît officiellement 5 grandes religions, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le catholicisme et le protestantisme, dont le contrôle idéologique est bien sûr assuré par le parti communiste. 30% des Chinois seraient croyants, selon les estimations, soit plus de 300 millions de personnes. Si les empereurs de Chine ont été des bouddhistes fervents, aucun membre du Parti communiste ne peut adhérer publiquement à une religion.
La Chine est extrêmement perméable à toutes les religions. Alors d'une part aux religions occidentales, au protestantisme, au catholicisme, surtout pour le moment au protestantisme, et toutes les formes des religions chrétiennes sont en développement, mais également, j'allais dire, aux nouvelles synthèses religieuses. Le bouddhisme est certainement la religion qui connaît la plus forte croissance, en tout cas dans les religions traditionnelles chinoises, parce que c'est une grande religion mondiale et chinoise tout à la fois. C'est-à-dire qu'un Chinois qui adhère à un groupe bouddhiste a l'impression de ne rien renier de son identité chinoise, tout en entrant dans un vaste mouvement globalisé. Il y a maintenant des bouddhistes partout dans le monde. Cela dit, le taoïsme, qui est un terme extrêmement vague, extrêmement diffus, correspond aussi à une réalité des sociétés villageoises locales, et le confucianisme est davantage un mouvement intellectuel qui conteste un petit peu les monopoles de l'Occident et qui cherche à reconstituer la science, la pensée et la moralité chinoise sur des bases plus traditionnelles.
Voilà Benoît Vermander, jésuite bien connu en Chine, qui enseigne les sciences religieuses en chinois à l'université Fudan à Shanghai, vient de nous dessiner les contours du champ religieux et spirituel en pleine recomposition en Chine. Pour explorer les montagnes sacrées de Chine, le Monde sur un plateau reçoit aujourd'hui Régis Anouilh, qui dirige la rédaction d'Ecclesiasie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris, qui envoie des missionnaires en Asie depuis 350 ans. Bonjour.
Bonjour.
Et Adeline Héroux, ethnologue, sinologue, chercheuse au CNRS, qui a fondé sa première recherche sur une enquête de terrain dans un monastère taoïste du sud du Shaanxi. Bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve dans quelques instants. Nirao à tous. Dance of Eagles, Senko Namchiklak, qui nous vient du nord de la Mongolie et qui mêle le jazz avec les influences mongoles, mandchoues et ouïghours.
France Inter.
Et Sébastien Lebelzik nous emmène tout de suite au temple des nuages blancs, tout près de Pékin.
Exercice matinaux de Kung Fu dans ce temple taoïste. Nous sommes dans la lointaine banlieue de Pékin. Ici, on enseigne les préceptes de cette philosophie de la voix, une mystique religieuse qui nous replonge dans l'histoire ancestrale de la Chine, comme l'explique le maître des lieux Wang Jun.
Le taoïsme se concentre d'abord sur notre spiritualité intérieure, l'essence même d'une personne, résister ou céder. Donc c'est pourquoi nous pratiquons les arts martiaux. La force physique n'est pas tout, elle décline avec l'âge. Et tout le monde sait que les muscles sont moins puissants et la circulation sanguine ralentit. Mais quand l'on combine les arts martiaux et la religion, alors on progresse, et quel que soit son âge. Donc on peut dire que, peu à peu, nous avons retrouvé l'essence même du taoïsme.
Banni pendant la révolution culturelle, le taoïsme est de retour. Il serait aujourd'hui 20 millions de disciples dans tout le pays et beaucoup viennent ici pour prier, comme nous l'explique ce père de famille.
Quand vous êtes en bonne santé, il faut venir ici, prier pour vous et pour votre famille. Il faut prier aussi pour le succès de ses enfants.
Mi-philosophie, mi-religion, le taoïsme renaît en Chine au début des années 80. Aujourd'hui, il attire de plus en plus d'adeptes à l'image d'une autre philosophie millénaire, le confucianisme. Nous sommes à l'école Serail de Pékin, un établissement qui enseigne aux plus jeunes les préceptes de Confucius. Le philosophe né en l'an 500 avant notre ère fait son grand retour dans la deuxième économie du monde.
Le communisme a perdu la légitimité morale qu'il avait autrefois. Et je pense que s'il veut se maintenir au pouvoir, il doit s'appuyer sur d'autres fondations philosophiques pour justifier son existence.
Daniel Bell, professeur de philosophie à l'université de Tsinghua.
Cette période de modernisation va avec une montée de l'individualisme. Je pense que la plupart des gens veulent être meilleurs. Ils veulent donner un sens plus juste à leur existence et pas juste gagner de l'argent pour leur seul confort matériel. Je pense que le confucianisme peut donner plus de profondeur au sens de leur existence et sur la façon dont leur vie peut être plus respectueuse.
Taoïsme, confucianisme, mais aussi bouddhisme ou christianisme, les religions renaissent en Chine. L'opium du peuple nourrit les âmes dans un pays en pleine transformation, une révolution spirituelle en République populaire.
Voilà, c'était un reportage de Sébastien Lebelzik au Temple des Nuages Blancs et à l'école de Kung Fu dans le sud-ouest de Pékin. Avec nous aujourd'hui dans le studio du Monde sur un plateau, Régis Anou qui dirige la rédaction d'Église d'Asie et Adeline Héroux, ethnologue, sinologue, chercheuse au CNRS. Régis Anou, on parle de 300 millions de croyants en Chine. Quelle est la place de la religion dans la vie des Chinois ?
Alors la question est complexe et je vais essayer d'apporter une réponse la plus simple possible. Je pense qu'il faut déjà oublier certaines de nos catégories. Vous avez parlé de 300 millions, un chiffre de 300 millions de croyants ou de personnes se disant appartenant à une religion. Il faut s'interroger là sur le sens du mot religion, semble-t-il. La religion pour nous, fondamentalement, occidentaux, ce serait sans doute, dans l'esprit de beaucoup, peut-être pas de tous, mais de s'interroger sur les fins dernières. Quelque part, je pense que cette interrogation, si elle existe bien sûr dans le monde chinois, elle n'est pas la définition prioritaire ou première de la religion. Et là, il faut revenir à l'étymologie du mot religion, en tout cas en latin, religere, qui est de relier. Et véritablement, la religion, c'est sans doute cela en Chine. C'est ce qui relie. C'est ce qui relie les réalités d'ici haut, les réalités d'en haut et les réalités d'ici bas. C'est ce qui relie les vivants entre eux. c'est ce qui relie les vivants aux morts. C'est cet ensemble de liens qui, finalement, définit plus, mieux qu'autre chose, me semble-t-il, la religion. Alors, bien sûr, ensuite, il y a des appartenances religieuses. On appartient à telle ou telle chapelle, mais même ces appartenances-là n'ont pas beaucoup de sens. Elles ont un certain sens pour certaines religions qui sont, pour parler clairement, le christianisme ou l'islam, beaucoup moins pour les autres, dans la mesure où on définirait plutôt, et Madame Héroux me corrigera si je me trompe, une religion populaire chinoise. Voilà, c'est peut-être le terme qu'il faut retenir, cette religion populaire chinoise qui fait que on peut effectivement avoir une pratique bouddhique, une appartenance taoïste et baigner dans une idéologie confucéenne. Il y a tout cela qu'il faut tenir ensemble et qui ne sont pas des appartenances tranchées comme on pourrait plus aisément le penser pour nous en Occident dès lors que l'on parle de religion.
Alors si on fait une répartition quand même par chapelle, si j'ose dire, combien de chrétiens, combien de bouddhistes, de taoïstes en Chine ?
Mais je vais vous décevoir encore parce que une chose est vraie en matière de statistiques en Chine, c'est qu'elles ne sont pas fiables.
Oui, ça c'est vrai.
Voilà, les statistiques sont un outil politique, les statistiques sont manipulées, et tout à coup, récemment, il y a dans le discours politique chinois, des dirigeants chinois, est apparu effectivement ce chiffre de 300 millions de croyants. D'où sort-il ? On n'en sait rien, il n'y a pas d'études de fiables. Pour parler de ce qui me concerne de façon plus proche, les chrétiens, même les chrétiens, on n'en sait rien. Un catholique, c'est assez facile de le définir, il est baptisé et son nom est dans un registre de baptême. Partout dans le monde, dans une église bien administrée, ces registres dans une paroisse sont agglomérés au niveau du diocèse, au niveau de la conférence épiscopale.
Alors il y en a combien de catholiques ?
Et même là, on ne le sait pas.
Pour la Chine, 4-5 millions, 6 millions ?
En 49, on le sait. En 49, à la prise du pouvoir des maoïstes, de Mao, pardon, on a à peu près le chiffre, c'est de 3 millions de catholiques. Aujourd'hui, par simple projection de la croissance démographique, on monte à 12 millions. Mais sans doute, c'est beaucoup plus. Sans doute, effectivement, c'est entre 15 et 20 millions. Voilà pour les catholiques. Après, les protestants. Protestants, c'est encore une autre question. On avance le chiffre de 100 millions de protestants. Ça va, les estimations vont de 30 à 100 millions. Comment dire, lorsqu'on voit cette imprécision des statistiques, on voit bien effectivement qu'il n'y a pas de définition simple et claire de la religion et d'organismes derrière qui pourraient tenir des statistiques avec un recensement dont on pourrait, sur lequel on pourrait s'appuyer.
Aline Héroux, les bouddhistes sont majoritaires.
Ils sont probablement les plus nombreux. Là où je rejoins tout à fait Régis Hanouille, c'est sur cette idée de religion qui reste vraiment pensée très différemment dans le contexte chinois. Et je dirais que, en tout cas pour les Chinois ordinaires, c'est même pas forcément une question qui se pose de savoir à quelle religion on doit ou à laquelle on appartient en fait, puisque beaucoup de Chinois peuvent croire dans les trois religions véritablement chinoises en fait. Et c'est seulement à partir d'un degré de pratique, donc on fréquente les temples, ça veut pas dire qu'il y ait une confusion ou qu'il y ait un syncrétisme, pas du tout, ni même qu'on puisse parler d'une religion, mais bien de religions différentes auxquelles on peut faire appel à différents moments de la vie. Et un jour, un maître taoïste m'a dit « Oui, mais en fait, les gens surtout croient dans les dieux avant de croire dans les différentes écoles. Mais c'est plutôt quand on décide d'adhérer à une certaine pratique que là, on peut différencier, parce que l'idée de religion dans le contexte véritable chinois, pour les religions chinoises, elle est étroitement associée à l'idée de l'enseignement et du maître. Et je dirais qu'on devient véritablement taoïste ou bouddhiste à partir du moment où on a un maître. Et donc, dans ce sens-là, de fait, les bouddhistes sont plus nombreux, même si le taoïsme est la religion véritablement autochtone, la religion chinoise, puisque le bouddhisme, comme vous le savez, vient d'Inde. Mais le bouddhisme, de fait, est beaucoup plus répandu et plus prosélyte que le taoïsme, qui est au contraire une religion un petit peu du secret, qui se transmet vraiment... Alors, les maîtres disent entre quatre oreilles, il y a vraiment de maître à disciple.
Et pas alors, plus. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'il y a une grande effervescence religieuse en Chine, Régis Hanouille.
Oui, ça c'est évident. Je lisais récemment, il y avait le responsable du Front Uni. Le Front Uni, c'est cet organisme politique qui n'est pas le Parti communiste et qui gère, qui supervise l'ensemble des organisations qui ne sont pas le Parti communiste. Il n'y en a pas beaucoup d'ensemble d'organisations qui ne sont pas le Parti communiste en Chine, qui n'y a pas de syndicat, pas de parti politique libre, tout cela. Néanmoins, il y a des organisations, notamment religieuses. Donc le Front Uni supervise les religions. Et ce dirigeant s'interrogeait, enfin, il il disait bien, partout en Chine, à l'école jusqu'à l'université, on vous pose la question dans les examens, en quoi croyons-nous aujourd'hui? Et la réponse est claire, c'est le credo du Parti communiste. Mais bien sûr, ce credo, il est totalement vide. On l'annonce, on le donne dans les examens, mais il ne correspond plus à rien. Au-delà donc de ce vide finalement idéologique, puisque le communisme a failli, il y a une soif naturelle énorme, effectivement, des Chinois dans l'ensemble qui, face au bouleversement considérable et très rapide que connaît cette société, vraiment, c'est des bouleversements qu'on a connus en deux siècles, ils vivent en trois décennies, il y a des interrogations. Et face à ces interrogations, il y a des réponses, et en tout cas une recherche, une aspiration spirituelle considérable, au-delà de ce matériel que l'on sent prégnant partout en Chine, effectivement, où lorsque l'on se rend en Chine, on a le sentiment que les gens sont d'abord à la recherche de la poursuite de biens matériels, alors que derrière, il y a effectivement une appétence néanmoins pour des choses spirituelles.
Quelle idée les Chinois se font de la religion, Adeline Héroux ?
Justement, pour continuer sur la question du renouveau, je dirais que il y a renouveau parce qu'il y a eu interdiction, et c'est même plus pendant une plus longue période que la révolution culturelle au sens strict, parce que les gens sur place, quand ils parlent de la révolution culturelle en matière de religion, c'est véritablement, ça a commencé depuis la fin des années 50 jusqu'au début des années 80, donc ça fait une très longue période où toute religion était impossible, comme vous l'avez dit, les temples ont été interdits, et donc le renouveau a d'abord été de revenir à ses croyances, et c'est vraiment cette volonté est venue du peuple, en fait, qui a vraiment fait pression pour retrouver les croyances, mais aussi tous les rituels qui rythment la vie sociale, pour les funérailles, etc. Et donc c'est quelque chose de vraiment très important. Alors je dirais toute la première phase, en fait, de retour aux religieux a concerné les années 80-90, où on a reconstruit les temples, la première chose, et puis on a recomposé les communautés de religieux eux-mêmes, rappeler en fait tous ces spécialistes religieux qu'on avait renvoyés à la vie laïque et à qui on avait demandé de faire complètement autre chose. Alors il a fallu du temps pour que ça se remette vraiment en place. Et puis ensuite, là maintenant, le renouveau continue, mais je dirais avec des modalités un petit peu différentes. La vie a énormément changé entre-temps et puis plus particulièrement ces dernières années. Et donc les gens mettent des attentes encore très fortes. En fait, dans les religions, ils vont dans les temples, alors peut-être pas aussi régulièrement qu'avant. Avant, les communautés y allaient tous les premiers et les 15 du mois, les jours de pleine et de nouvelle lune. Aujourd'hui, on y va peut-être un peu moins souvent, enfin, au minimum, mais on y va à des moments plus précis, et on consulte tout le temps, toujours, les maîtres religieux.
Alors, si j'ose dire, le grand maître du renouveau, c'est Confucius, dont on ne cesse de parler en Chine. Alors comment qualifier ce mouvement intellectuel, spirituel, Adeline Héroux ?
C'est tout à la fois, tout peut-être, à la fois. Et puis aussi religieux, puisque, comme je vous le disais, les Chinois croient d'abord dans les dieux, et puis ensuite, peut-être un petit peu dans les plus spécifiquement, il y a aujourd'hui pas ou peu de clergé confucianiste. C'est peut-être pour ça qu'on parle plus de philosophie du comportement, mais il y a un renouveau aussi, parce que les spécialistes religieux officiaient beaucoup à la cour impériale, et donc depuis la chute du dernier empereur, il y en a quasiment plus, mais on observe un renouveau récemment.
Régis, ça nous, l'avantage du confucianisme, finalement, c'est qu'il permet de tout mettre ensemble, la moralité, le sentiment religieux, la façon de se conduire. C'est assez pratique pour le régime.
C'est assez pratique. Et il l'utilise, il l'instrumentalise, et c'est justement là le danger ou la limite sans doute du confucianisme aujourd'hui, c'est que bien sûr il fait partie de la culture, bien sûr on rentre dans cette culture du respect du maître, du père, de l'empereur, de tout cet ensemble de hiérarchiques extrêmement codifiés. Néanmoins, si le régime l'utilise à des fins de stabilité sociale, il joue également avec le feu, dans la mesure où il décrédibilise en quelque sorte. Alors il ne peut pas décrédibiliser le confucianisme puisqu'il fait partie de la culture chinoise, mais néanmoins, les limites de cette instrumentalisation se voient, et sans doute aujourd'hui, les Chinois ne sont pas prêts à se laisser embarquer dans une nouvelle instrumentalisation là, de la religion au service du politique.
Est-ce que le Confucius d'aujourd'hui a à voir quelque chose avec le Confucius il y a 500 ans avant Jésus-Christ, Aline Héroux ?
Je pense que les choses sont très différentes. Bon, la société aussi a beaucoup changé. Mais ce que je dirais, quand vous disiez le confucianisme qui regroupe un peu toutes les dimensions, il y a une dimension qui ne regroupe pas et qui par contre concerne véritablement le bouddhisme, le taoïsme, c'est la dimension de pratique corporelle, je dirais. Toutes les techniques du corps. Alors, on parle génériquement de l'ascèse. Alors, l'ascèse en Occident, ça a une petite connotation peut-être un peu négative ou de souffrance. Là-bas, c'est vraiment l'idée du perfectionnement de soi, du travail sur soi, qui passe par un travail sur le corps. Et là, c'est peut-être une des grandes différences, peut-être même la différence la plus saillante avec notre façon à nous, en Occident, de penser la religion et celle des Chinois, c'est l'importance accordée au corps, en fait.
Smith, April Fool.
Le monde sur un plateau sur France Inter.
Lao Tzu a dit : il faut trouver la voie.
Ah oui.
Moi je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi.
Oui. À vrai dire, je suis là pour ça.
Et ensuite, vous connaîtrez la vérité.
Est-ce que vous le dites ?
Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête.
Quoi ?
Signe, signe, ça signe, tout.
Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voie », réplique culte de Tintin et le Lotus Bleu, la voie ou le Tao de Lao Tzu, fondateur du taoïsme. C'est un clin d'œil de Sarah, notre assistante. Adeline Héroux, au commencement, a été la voie?
Alors, la voie en chinois, c'est donc le Tao. Et le Tao, c'est ce principe ineffable, source de toute chose, qu'il est presque vain de chercher à gloser, à discuter, étant donné la grandeur, son importance. Et je dirais que s'il fallait résumer ce que c'est le Tao et le taoïsme, je dirais que la spécificité de cette religion, c'est qu'on se préoccupe moins de la mort et de ce qui va se passer après, que de la vie elle-même, qu'il s'agit de prolonger, le but étant de gagner l'immortalité, qui se dit littéralement la longue vie sans mourir, et donc par là même d'approcher et même de gagner le Tao. Et là, c'est vraiment une singularité, et donc qui se différencie très clairement là du bouddhisme, où il s'agit de progresser dans le cycle des réincarnations pour en sortir et gagner le nirvana.
Les taoïstes aujourd'hui en Chine sont nombreux ou pas? Ils sont moins nombreux que les bouddhistes.
Oui, mais ils sont nombreux. Et alors, on trouve des maîtres taoïstes, donc les spécialistes, le clergé en quelque sorte taoïste. Alors, ils sont de deux sortes. Il y a des prêtres mariés, je dirais, donc la plus ancienne obédience qui date du deuxième siècle de notre ère, dont le fondateur est un certain Zhang Daoling, et les moines qui sont apparus beaucoup plus tardivement au XIIe siècle et qui se sont perpétués également jusqu'à nos jours. Et donc, ça fait deux groupes de spécialistes religieux. Alors, les moines, ils sont plutôt dans le nord de la Chine, et les maîtres mariés, ils officient plutôt dans le sud de la Chine, mais ils sont en très bons termes, ils collaborent, ils se retrouvent aussi dans le cadre de rituels collectifs. Et puis, alors, il y a des adeptes laïcs, tout à chacun, qui choisissent justement de poursuivre cette voie et qui s'engagent eux-mêmes dans une quête, alors pour différentes raisons, mais c'est souvent des raisons liées à cette idée du perfectionnement de soi, des pratiques sur le corps, sur le souffle, qui, dans le contexte chinois, sont rattachées à cette sphère du religieux si différente de la nôtre.
Alors du coup, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans ce monastère taoïste du sud du Shaanxi où vous avez fait votre première étude pendant un an?
Oui, en fait, bon, j'ai fait plusieurs séjours, et je dois dire que j'étais vraiment intéressée par cette religion autochtone, vraiment chinoise, dont on parle si peu, et parce que très bizarrement, je dirais que le livre de la voie et de la vertu de Lao Tzu est probablement un livre des plus traduits de toute la littérature extrême orientale. Donc, beaucoup d'entre nous en ont entendu parler en Occident, et pourtant, on connaissait très peu de choses sur la religion elle-même. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir dans la vie quotidienne d'un petit temple ordinaire j'allais dire de campagne, mais c'est une petite ville à l'échelle chinoise, comment se passait la vie, qu'est-ce que c'était un temple et comment vivaient les moines.
Régis Hanouy, est-ce que la Chine est perméable à d'autres religions qui ne sont pas des religions d'origine comme le taoïsme, donc je pense au christianisme bien sûr? La Chine est perméable aujourd'hui, en 2012?
Oui, la Chine est perméable. Il faut penser d'abord au bouddhisme. Rappelons-le, encore une fois, il n'est pas originaire de la Chine.
Oui,
le christianisme aujourd'hui, qui est notre objet. Oui, le christianisme est également présent en Chine. Une présence ancienne. Hein. Ce n'est pas une présence qui date simplement de l'expansion coloniale du 19e siècle des puissances européennes. La stèle de Xi'an, qui date de 635 après Jésus-Christ, en témoigne dans un musée à Xi'an, de cette présence du christianisme. Il y a même sans doute peut-être des preuves archéologiques plus antérieure encore, qui remonterait peut-être à l'apôtre Saint Thomas, mais ce n'est pas prouvé. Donc au temps apostolique, juste après Jésus-Christ. Néanmoins, cette présence a été effectivement très chahutée par l'histoire. Et aujourd'hui, on arrive à cette image, néanmoins, que pour l'homme de la rue chinois lambda, la religion chrétienne est une religion de l'étranger. C'est vrai, cette image existe, il ne faut pas chercher à le nier. Et on vient d'en voir encore des exemples très récemment, puisque aujourd'hui avait lieu une ordination épiscopale, donc l'ordination d'un évêque pour l'église catholique à Harbin, en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, et et qui a entraîné des réactions très vives, tant de la part du Vatican que de la part de Pékin. On voit là que ce lien à Rome de l'Église catholique, effectivement, rappelle ce lien avec une religion étrangère, ou en tout cas à portée universelle. Et là, néanmoins, c'est à la fois un frein et un accélérateur de cette présence du christianisme en Chine. C'est un frein parce qu'effectivement, aujourd'hui, la Chine se cherche ou cherche son identité et donc ne veut pas forcément prendre école ou se mettre à l'école de quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est en même temps un accélérateur qu'il y a une soif chez les Chinois de ce qui vient de l'extérieur. Et ce qui vient de l'extérieur, c'est notamment souvent ce qui vient de l'Occident. Et l'Occident est assimilé, ou en tout cas très, très fortement assimilé, oui, à la religion chrétienne.
Oui, c'est toute la difficulté des catholiques en Chine qui sont partagés entre l'Église officielle, effectivement, et l'Église dite souterraine qui obéit à Rome. Qu'est-ce qui va arriver à ce prêtre qui a été choisi, désigné par le Parti communiste?
Oui, alors il n'a pas été directement choisi par le Parti communiste. Les choses sont assez complexes, mais il y a cette division, non pas du fait des catholiques chinois eux-mêmes qui se diviseraient sur des questions de dogme, où ce serait un schisme, où ils ne seraient pas d'accord entre la place, je ne sais pas, de l'Esprit Saint dans la Trinité, ou la place des évêques entre eux vis-à-vis de Rome. Non, ce n'est pas cela. Il y a une unité doctrinale de tous les catholiques en Chine, mais il y a cette volonté du Parti communiste, en tout cas de l'appareil du pouvoir chinois, d'imprimer sa marque sur les religions, de les contrôler. Et ce contrôle est inacceptable pour les catholiques, d'où des divisions entre certains qui acceptent de faire un bout de chemin dans ce cadre contrôlé par le parti et ceux qui refusent toute compromission.
Donc cet évêque sera excommunié par Rome ou pas ?
Alors, en posant, il en a eu connaissance par des messagers directs qui venaient qui avaient autorité du Saint-Siège, du pape. En posant l'acte de recevoir librement cette ordination, il se pose de lui-même en dehors de la communion de l'Église universelle. Il s'auto-excommunie en quelque sorte. Je dis s'il accepte librement. Toute la question est du librement. On ne sait pas aujourd'hui jusqu'à quel point il a accepté librement cette ordination. Est-il contraint ou non, et jusqu'à quel degré par le parti pour le faire?
Il y a une compétition aussi avec les églises protestantes en Chine. Les États-Unis mettent beaucoup d'argent dans les églises protestantes.
Les États-Unis, quand vous dites les États-Unis, on entend Obama qui enverrait de l'argent. Non, je ne pense pas. Effectivement, en matière de politique intérieure américaine, la question de la Chine est très présente. La question de la présence chrétienne ou du respect des droits de l'homme en Chine est également très présente. Tout ça est mêlé. Et effectivement, il y a de nombreuses églises protestantes américaines, pentecôtistes ou évangéliques, pour qui aller évangéliser, entre guillemets, la Chine, c'est le nirvana. Ils auront gagné leur ciel s'ils y arrivent. Il y a donc de très forts liens. Mais il y a également des Sud-Coréens et beaucoup d'autres. Et tout simplement, en Chine même, ces mouvements évangéliques protestants s'auto-entretiennent, en tout cas se développent considérablement et grandissent. Donc il n'y a pas forcément besoin, il faut, je pense, se défaire de cette idée que l'expansion du christianisme en Chine dépendrait d'un soutien de l'extérieur. Ces liens avec l'extérieur existent, c'est évident, il ne faut pas les nier. Ils posent des problèmes politiques, on l'a vu pour le catholicisme. Ils ne sont pas liés à des questions d'argent forcément avec le protestantisme, mais il y a une véritable croissance autonome, entre guillemets, du catholicisme ou du christianisme chinois.
Le contrôle idéologique de toutes ces religions est vrai aussi pour l'islam?
Il est vrai pour l'islam, bien sûr. Il y a pour toutes ces cinq religions officiellement reconnues, vous avez cité,
oui,
l'islam en fait partie, il y a des associations patriotiques. C'est une fiction, en ce sens que ce sont normalement, voilà, c'est pensé comme un ensemble de fidèles de telle ou telle religion qui se réunissent et qui créent une association pour diriger ou en tout cas contrôler cette église. En fait, ces associations, bien sûr, leur autonomie n'existe pas. Elles sont totalement contrôlées par le Parti communiste. Mais c'est l'œil de Moscou, en quelque sorte. C'est l'œil du pouvoir sur la vie, l'organisation de ces religions. Ce n'est pas forcément un œil qui s'abat avec une matraque puissante, mais c'est néanmoins un œil qui veille à ce que les bornes que le parti fixe ne soient pas dépassées.
Et c'est un œil qui veille aussi sur le bouddhisme et le taoïsme, Aline Héroux ?
Oui, bien sûr, parce que ces associations patriotiques d'État concernent également, bien sûr, les bouddhistes et les taoïstes. Et donc, ce sont des associations dont on ne choisit pas d'être membre et dont tous les membres du clergé sont automatiquement membres, plus un certain nombre de laïcs qui sont, pour dire les choses, les responsables des conseils paroissiaux localement. Et donc, c'est des organisations qui sont calquées sur le modèle, le découpage administratif du pays, où il y a le centre de l'association et en général à Pékin. Et puis, chaque province a un échelon provincial qui, eux-mêmes, se subdivise en différents échelons régionaux. Et donc, là, par ses filières, je dirais, l'État donc, transmet sa politique, les mesures qu'il souhaite voir appliquer, ce qui est autorisé, pas autorisé, et puis en sens inverse, on remonte de comment ça se passe sur le terrain. Sauf que, alors je me suis longtemps demandé justement pourquoi, j'avais du mal à comprendre pourquoi les catholiques étaient particulièrement malmenés en Chine. J'avais vraiment du mal, parce que je me disais, en même temps, sur le terrain, de ce que je pouvais voir, ils étaient un petit peu tous, autant les taoïstes, les bouddhistes, les tibétains, un peu à la même enseigne, tout autant. Et alors, justement, c'est vraiment en parlant avec un prêtre dans les campagnes, avec un prêtre catholique, qui m'expliquait que, voilà, c'est vrai que ces associations, donc c'est quand le peuple, je dirais, a fait pression pour retrouver ses religions à la fin des années 70, début des années 80, donc l'État a cédé, mais avec cette volonté de contrôler de l'intérieur. Et donc, les différentes associations ont été mises en place, et autant, alors que pour les bouddhistes, les taoïstes, c'était pas trop un problème qu'on nomme les spécialistes, enfin, le clergé, les membres, le directeur de l'association, le président de l'association taoïste de tel endroit était désigné par le parti. Pour eux, c'était pas un problème, parce qu'on n'allait pas inventer des religieux non plus, on prenait généralement, on prenait des religieux qui avaient une certaine légitimité locale, donc des grands maîtres. Donc pour eux, c'était pas un problème. Après, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ils se débrouillaient. Il y a des choses qui se passaient aussi dans les arrière-boutiques des temples, et là, qui allait vérifier? Par contre, pour les catholiques, de fait, comme vous l'avez très bien dit, le problème était qu'on ne peut pas s'accommoder, on ne peut pas, seul Rome a le droit de nommer les évêques, et donc là, on ne pouvait pas s'en accommoder.
Thank you.
beau, je suis Dieu. Vous écoutez France Inter, il est 17h47, 6 heures de plus à Pékin.
Le monde sur un plateau. Dominique André.
Et c'est l'heure de partir pour nous à Pékin, à la librairie de l'Arbre du Voyageur, où nous attend comme tous les jours Jason Briganti, son directeur. Bonjour Jason.
Bonjour Dominique.
Votre choix s'est porté sur qui aujourd'hui ?
Alors je souhaitais parler de Yuhua et en particulier de son essai virtuose « La Chine en 10 mots », édité chez Actes Sud il y a de cela 2 ans. En fait, « La Chine en 10 mots », donc c'est un essai. C'est un essai sur la Chine contemporaine et en même temps c'est une autobiographie. Quelque part c'est aussi le long commentaire de son best-seller précédent qui s'appelait « Brothers ». Trajectoire de 2 amis, l'un intellectuel et l'autre entrepreneur. Et en fait, il s'interroge, le roi s'interroge à sa manière sur un demi-siècle d'histoire. Il a vu passer de l'hystérie politique à une autre hystérie, qui est celle du consumérisme. Et donc, il part sur 10 mots, voilà, qu'il a établis, et il évoque ces 10 mots.
Et on a tout de suite envie de connaître ces 10 mots, Jason.
Alors, 10 mots, je vous les cite rapidement. Peuple, leader, lecture, écriture, lousune, disparité, révolution, gens de peu, faux et embrouille. Il démarre sur ce mot « peuple » en disant qu'effectivement, il existait énormément, qu'il était employé par tout le monde à l'époque. Le quotidien du peuple, servir le peuple, comme on le voyait sur certains dazhebao, certaines affiches de la ville. Et ce mot qui a totalement disparu maintenant, qui est utilisé par la propagande gouvernementale, mais qui n'est plus évoqué. Le mot « leader », mot également maoïste, puisqu'il était, il concernait Mao. Maintenant, on se retrouve avec le leader des médias, le leader de l'environnement, le leader du vendeur de stylos. Et au fur et à mesure, donc, il va comme un voyage à travers, comme c'est l'autobus de sa vie, quelque part. Il part de la vie quotidienne des Chinois. Il s'arrête à certaines stations, des stations secrets, des stations société, économie. Et certaines histoires montent, certaines histoires descendent. Et il revient à chaque fois à la vie quotidienne des Chinois dans son propre style, avec une forme beaucoup moins dure que dans ses romans précédents, mais un fond tout aussi cinglant, quelque part, avec un certain recul.
Merci beaucoup, Jason. Et je vous dis à lundi.
Merci, Dominique. À lundi.
Qui a lu « La Chine en 10 mots » de Yuhua, de Jisanui.
Je ne l'ai pas lu, mais je vois ce lien comment dire, dans les mots, les 10 mots clés, « peuple » et « faux », le fait d'être faux et le peuple. On a parlé du renouveau religieux en Chine. Aujourd'hui, on peut voir que le peuple en Chine, donc les Chinois, en ont quelque part assez ou sont à la recherche de quelque chose d'autre que ce qu'on leur propose, qu'ils estiment être faux. Le discours du régime est faux. Ils le savent pertinemment, il n'y a pas d'autre discours possible. Et néanmoins, ils sont à la recherche de quelque chose et c'est ce renouveau du spirituel auquel on assiste. Donc il y a vraiment à travers ces quelques mots, peuple et faux, oui, on peut faire le lien dans la mesure où cette soif d'autre chose, elle est liée finalement à ce positionnement du régime qui est aujourd'hui totalement décalé parce qu'il n'y a pas un discours de vérité. Donc il y a une recherche d'un absolu plus important qui va au-delà de ce que la politique n'a cessé de leur donner et de mal leur donner depuis plus d'un demi-siècle. Donc il y a véritablement un appel, me semble-t-il, aujourd'hui dans la société chinoise, à un renouveau religieux qui appelle de cette autonomie de la sphère religieuse que le parti ne veut pas voir. Le parti tient un monopole du pouvoir, c'est entendu. Le parti a le monopole de l'organisation des pouvoirs politiques, c'est entendu, de la force armée, etc. Mais il veut également maintenir ce monopole sur les esprits. Aujourd'hui, on a le sentiment que la Chine est extrêmement libre, parce qu'effectivement, on se rend facilement en Chine, c'est l'auberge espagnole, c'est la croissance économique, tout ça est vrai. Mais néanmoins, d'aller réclamer certaines choses est aujourd'hui impossible, les libertés, les droits de l'homme, mais au-delà, c'est véritablement cette autonomie de la sphère individuelle qui est de plus en plus grande, et au-delà de la sphère religieuse que le parti refuse d'accorder à la société, parce qu'il a peur. Il a peur que son régime vacille sur les bases qui sont assez fragiles.
Oui, d'ailleurs, le régime, du coup, est dans une situation assez paradoxale, puisqu'il autorise certaines religions tout en les contrôlant parce qu'il les considère comme étant un danger social.
Il n'a pas pu les faire disparaître. C'était l'objet du pouvoir maoïste, de la révolution culturelle. Cette politique ayant échoué, il y a effectivement ce côté pragmatique chinois qui fait que les religions existent. Bon, on ne peut pas les empêcher. On va donc chercher à les contrôler. Alors qu'il y a intrinsèquement dans la vie religieuse une autonomie qui dépasse la sphère politique et donc qui fragilise ce pouvoir politique.
Aline Héroux, aucun membre du Parti communiste ne peut adhérer à une religion en Chine. Toujours pas.
Oui, mais justement, en même temps, il y a toujours cette possibilité de jouer de cette ambiguïté de qu'est-ce que c'est être religieux. Et comme je vous disais que le plus grand nombre des Chinois vont dans les temples sans nécessairement adhérer particulièrement à une ou l'autre des religions, ça laisse une petite marge de main-d'œuvre possible quand même. Et je dirais que c'est quelque chose, c'est de longue date, il y a eu une imbrication en Chine du religieux et de l'État. Et alors, justement, les religieux ont toujours appris ou réussi d'une certaine manière ou moins, selon les périodes, à s'en jouer aussi. Voilà.
Oui, c'est la notion d'empereur, maître du ciel. Donc, maître c'est le médiateur entre les réalités d'en haut et les réalités d'ici-bas. Il est le maître du ciel, ses habits dans lesquels s'est glissé le Parti communiste. Alors qu'aujourd'hui, la modernité à laquelle aspire la population chinoise, justement, quelque chose qui va sans doute au-delà et qui demande justement à ce que le pouvoir politique ne soit pas cet intermédiaire obligé avec les réalités d'en haut et donc cesse ce contrôle des religions. C'est évident pour la religion catholique, mais c'est évident également pour les autres religions. Il y a véritablement une soif d'une autonomie de cette sphère qui est sans doute pas supérieure mais au-dessus de la sphère politique, et ça le parti bien sûr ne peut pas l'accepter.
Aline Hérault, alors vous nous avez amené un livre, vous avez un conseil de lecture pour nos auditeurs cet été.
Oui, donc un livre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle La part manquante, échange et pouvoir chez les Drung du Yunnan, qui a été écrit par Stéphane Gros et qui est paru dans les publications de la Société d'ethnologie, donc juste cette année, au mois de juin, et qui est un très beau livre, je trouve, sur, parce que là on a beaucoup parlé de la Chine majoritaire, de la Chine des Han. Et là, c'est un livre sur une petite minorité du sud de la Chine, donc dans le Yunnan, et vraiment une population, je dirais, assez reculée géographiquement, puisqu'on les trouve dans une vallée à plusieurs jours de marche de toute ville digne de ce nom, et où cet ethnologue a été un des premiers, ou le premier, ou le seul même peut-être, à être allé se faire enfermer par les neiges l'hiver dans cette vallée dont il ne pouvait plus ressortir, à vraiment vivre en immersion, enfin, comme font les ethnologues, avec cette minorité qui est une population tibéto-birmane où les femmes traditionnellement avaient le visage tatoué. Et donc voilà, c'est le premier livre, je crois, en tout cas en langue occidentale, et le premier livre d'ethnologie qui sort sur cette petite population et que je vous recommande vivement.
Et les Drung, donc petite minorité, vraiment toute petite minorité chinoise, les Drung ont-ils une religion ?
Je crois qu'il y a tout un culte des ancêtres, des rites, notamment le rituel du Nouvel An qui est très important et qui mobilise toute la vallée avec plein de rituels.
Le monde sur un plateau.
Ça, c'est Xin Shi Ji, l'histoire de nouveaux gourmands.
Donc, on file dans le 12e arrondissement de Paris, retrouver comme d'habitude Sun Tuan et Guan Tian qui nous présentent chaque jour un plat traditionnel chinois. Donc, grâce à vous, on découvre vraiment la cuisine que mangent les Chinois chez eux. Donc, on rentre dans l'intimité des Chinois. Et aujourd'hui, donc, vous nous avez préparé du poulet sauté aux noix.
Oui. En chinois, on dirait hu po ji ding. C'est hu po, c'est le noix. D'abord, pour préparer la viande, quand après couper, il faut qu'on mélange avec un peu de blanc d'œuf pour garder de l'eau de poulet. On dirait le tendre. La tendresse de poulet.
La viande, en fait, quand on met le blanc d'œuf, après on chauffe dans le bouillon. Quand l'eau est chauffée, bien chauffée, après on met la viande. Jusqu'à la couleur est changée en blanc. Après on peut la sortir. On chauffe le poêle, on met la ciboulette, tout ça. Quand il y a un peu de goût de ciboulette, ça sort. Après on met la viande. Et après, le même temps, on met la sauce soja, le sel, le sucre. La sauce de huit, tout ça, on bien mélanger. Après, on chauffe quelques minutes, c'est bon.
Ça, c'est un plat que vous faites dans quelles circonstances ? C'est un plat de tous les jours ou vous le faites pour une occasion particulière ?
Non, en fait, c'est pas. On ne dirait pas on mange ça tous les jours, mais c'est pas un plat très particulier non plus. Donc, en fait, à la place de noix, on peut ajouter par exemple les cacahuètes. Ou les pistaches, ou les...
Avant, en fait, quand à l'époque, on utilisait c'est la cacahuète, parce que ça coûte moins cher. Maintenant, quand les gens y pensent à la santé, tout ça, on remplace la cacahuète, on utilise la noix, parce que c'est très bien pour la santé, la noix, ça y a moins de gras.
En fait, s'il y a des gens qui aiment bien le goût de sauce soja, ça c'est un très bon choix. Parce que ça, en fait, dans le plat, il n'y a pas de goût très spécial, très particulier. C'est juste la sauce, c'est le goût de sauce soja. Donc, si les gens aiment bien ça, et on peut faire ça. C'est un très bon choix. Ce n'est pas pimenté du tout.
Ça mélange avec du riz, c'est très bien.
Voilà pour conclure cette émission sur le regain de la religion en Chine. Est-ce qu'il y a une religion que les dirigeants chinois redoutent le plus, Régis Sanouille?
Moi, je dirais que ce sont les religions qui ont une prétention à avoir un discours sur la société. Alors concrètement, c'est le bouddhisme tibétain, l'islam, le christianisme. Pourquoi? Parce que ces religions ne s'intéressent pas uniquement aux fins dernières, mais également à un discours sur la société. Et là, les intellectuels se convertissent, et notamment au christianisme.
Aline Héroux?
Je dirais que les taoïstes ont ce principe du wu-wei, du non-agir, qui est au contraire qui n'est pas un principe de passivité, mais de réalisation. Et une jolie phrase de Zhuangzi, donc un des patriarches du taoïsme, quand le disciple vient chercher le maître et lui demande ce que c'est que le Tao, le maître répond « Redresse ton corps, unifie tes regards et l'harmonie céleste descendra en toi. Bride ton intelligence, concentre tes pensées, les esprits te feront visite, la vertu t'embellira, le Tao t'habitera. » Et là, l'élève s'endort. Et le maître, au lieu d'être fou furieux, et saute de joie et il crie et il dit « Vrai est sa connaissance, détaché de toute science, ignorant et obscur, il n'a plus de pensée, avec lui on ne peut plus discuter. Ah, quel homme, quel diable d'homme !»
Voilà, Le Monde sur un plateau, c'est fini pour cette semaine. Merci à Aline Héroux et à Régis Sanouille d'avoir été les invités du Monde sur un plateau. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Programmation musicale, Djoubaka. Attaché de production, Sarah Masson. Réalisation, Pierre Jabot.